Les balados du devoir. L'histoire au quotidien. Avec cette semaine,
Martine Tremblay. Le devoir, 21 mai 1980. C'est non à 58,2%. Une majorité claire dans presque toutes les régions, la majorité francophone échappe aux tenants du oui. Non, le gouvernement du Québec n'a pas obtenu le mandat de négocier la souveraineté association avec le reste du Canada. 58,2% de ceux qui ont répondu à sa question le lui ont refusé en ce 20 mai 1980. Claire et constante, cette majorité s'est vérifiée dans la quasi-totalité des régions du Québec et dans la quasi-totalité des circonscriptions électorales, les péquistes comme les autres. Même la majorité francophone, objectif de repli que s'était fixé le camp du oui, lui a échappé.
Comme vous le savez maintenant, ce que nous vous demandons au référendum du 20 mai, c'est un mandat de négocier une nouvelle entente avec le reste du Canada.
Par l'une des plus belles journées de ce printemps hésitant, les Québécois se sont massivement présentés aux urnes. Au dernier relevé, quelque 84% des électeurs inscrits l'avaient fait, soit 1% de moins qu'aux élections provinciales de 1976. 56 minutes après la fermeture des bureaux de scrutin, Radio-Canada prédisait avec une forte certitude de la victoire du non, qui devait se confirmer décisivement peu après. En fin de soirée, après compilation des données de 97,6% des bureaux, le oui avait reçu 1 619 666 adhésions contre 2 258 002 au non.
Cécile Brunet va dire oui.
Selon les analystes spécialisés, il aurait fallu, pour le oui, atteindre entre 41,5 et 43,5% des suffrages exprimés pour pouvoir prétendre avoir convaincu au moins la moitié des francophones que M. René Lévesque, chef des forces souverainistes, avait tant appelé à la solidarité, particulièrement au dernier jour de la campagne. À cette division moitié-moitié des voix francophones a correspondu une victoire généralisée du non dans la quasi-totalité des comtés à majorité francophone du Québec, où la thèse du fédéralisme a rallié une moyenne de 57% des suffrages.
Ensemble, on dit oui, c'est le oui de tout le monde.
Dans les comtés à majorité anglophone, le non faisait un plein allant parfois jusqu'à plus de 80% des voix. Ce fut le cas notamment dans la région ouest de Montréal, où le oui a été littéralement écrasé. La plupart des ministres du gouvernement actuel, de même que ses vedettes, n'ont pu convaincre leurs électeurs d'adopter leurs convictions souverainistes. On ne trouve que de rares survivants, dont le premier ministre lui-même dans son comté de Taillon, le ministre des Finances, M. Jacques Parizeau dans l'Assomption, et le ministre des Affaires intergouvernementales, au surplus père du référendum, M. Claude Morin, dans Louis-Hébert, à Québec.
Parce qu'on a tout à gagner.
L'image est donc la même pour les grandes régions. Seul le Saguenay-Lac-Saint-Jean a résisté aux forces fédéralistes et a maintenu avec la Côte-Nord sa réputation de château fort péquiste. M. René Lévesque a été le premier leader politique à se manifester hier soir quand il a rejoint à 21h30 ses partisans massés au Centre Paul Sauvé. Annoncé très tôt et prévisible dès les premières bribes de résultats, la victoire du non avait jeté la consternation dans cette foule de quelques 6000 personnes qui a toutefois retrouvé, à travers les larmes parfois, son délire habituel des grands soirs pour l'arrivée du chef. Calme, mais la voix un peu plus brisée que durant la campagne, M. Lévesque a confié que cette défaite était plus dure à avaler que n'importe quelle défaite électorale. Mais dès les premiers instants de son discours, il a reconnu qu'il est clair que la balle vient d'être renvoyée dans le camp fédéraliste auquel le peuple québécois vient de donner encore une autre chance. Le premier ministre n'en a pas moins trouvé l'énergie de fustiger encore une fois le style de campagne de ses adversaires en s'en prenant au déversement de publicité fédérale qui a, selon lui, piétiné toutes les règles du jeu. Et il a évidemment exprimé beaucoup de scepticisme à l'égard des promesses de changement constitutionnel.
Une frontière entre le Québec et le Canada, je me demande comment ça va marcher, tout ça.
Comme un Québec souverain devrait payer 80% de sa consommation d'énergie en devises devenues étrangères, et qu'il perdrait d'énormes transferts fiscaux, il ne pourrait maintenir la parité de sa monnaie qu'au prix de sévères restrictions.
Sous les cris des approbateurs, cette fois, il a demandé aux militants d'accepter la victoire du non, tout en leur rappelant que le camp des souverainistes pouvait demeurer ferme dans son option et son dessein, puisqu'il compte sur l'appui de la majorité des générations montantes. Quant au grand vainqueur de ce 20 mai, le président du Comité des Québécois pour le non, M. Claude Ryan, c'est une demi-heure plus tard qu'il rejoignait 3000 fidèles à l'aréna de Verdun, une foule plus calme que celle qui venait de recevoir son adversaire. La cause d'un Québec résolu à se développer librement dans un fédéralisme canadien renouvelé vient de remporter ce soir une très grande victoire, a-t-il proclamé aussitôt. Il a interprété cette victoire non seulement comme un refus du mandat de négocier la souveraineté association, mais aussi comme un non à la souveraineté association elle-même et un non à la méthode utilisée par le Parti québécois pour extorquer un consentement.
Plus j'y pense, la souveraineté association du PQ, c'est un... Plus j'y pense, plus c'est non.
M. Ryan s'est particulièrement réjoui, durant son long discours, de l'ampleur de sa victoire éclatante partout au Québec et de ce qu'elle interdira, selon lui, d'interpréter le vote en faisant des distinctions subtiles entre catégories de citoyens. Il a fermement renouvelé son engagement envers le renouvellement du fédéralisme et n'a pas manqué d'inviter M. Lévesque à déclencher des élections le plus tôt possible afin que les citoyens du Québec puissent indiquer quel parti est le mieux qualifié pour négocier le renouvellement du fédéralisme canadien. Quelques minutes plus tard, c'était au tour du premier ministre canadien, M. Pierre-Éliott Trudeau, de commenter la victoire de son camp au centre de la presse d'Ottawa. M. Trudeau a adopté un ton particulièrement modéré pour se réjouir de ce que les Québécois aient choisi l'approche de la fidélité au Canada. « Je devrais me réjouir sans réserve des résultats obtenus », a-t-il dit. « Mais je ne puis m'empêcher de penser à tous ces tenants du oui, qui doivent ce soir remballer leurs rêves et se plier au verdict de la majorité. » Il est même passé au lyrisme, évoquant ici les meurtrissures de l'âme à guérir, et là les amitiés brisées, les amours écorchés et les fiertés blessées. Il a aussitôt lancé un appel à tous les Canadiens pour rebâtir la maison, c'est-à-dire reprendre avec audace et vision l'œuvre de consolidation et de renouveau de la Fédération canadienne. Il y a même invité nommément M. Lévesque. « Avec l'aide de Dieu », a-t-il conclu, « nous réussirons ». Un peu plus tard, M. Trudeau a confié à quelques journalistes qu'il avait, le soir même, fait parvenir une lettre à tous les premiers ministres des provinces pour les convier à reprendre au plus tôt les pourparlers constitutionnels autour d'une table de conférence fédérale-provinciale. La date de cette première rencontre n'a cependant pas été évoquée. La nette réponse des Québécois en faveur du non mettait fin à 35 jours de campagne référendaire, mais surtout à un suspense qui durait en pratique depuis l'élection du Parti québécois au gouvernement de la province, le 15 novembre 1976. Le PQ avait alors obtenu 41,4% des suffrages, presque exactement ce que sa thèse constitutionnelle a rallié hier, ce qui révèle la stabilité de ses appuis, mais qui l'amènera sans doute à discuter à nouveau, tant et plus, de la stratégie de l'étapisme, comme on commençait à le faire dès les premiers moments suivant la défaite.